Dans les mots d'une personne célèbre, oui, ça commence, c'est Tam Tam Canada. Si vous posiez la question là sur le web, vous attendiez, ça commence-tu? Oui, c'est commencé. Tam Tam Canada en direct de Montréal, sur ces images de l'Ouest canadien, nous vous accueillons en ce beau vendredi. C'est comment le ciel?
Nuageux? Ça a beaucoup changé depuis ce matin.
C'est vrai?
Il y a beaucoup plu. Mais là, c'est ensoleillé, je crois.
Oui, moi, je suis sortie déjà? De chez moi, ouais. Moi, je suis sortie de chez moi au moment de l'orage.
Ah bon? Il y a eu un orage.
Oui, ça tombait et puis tout d'un coup, tout était fini.
Bon, alors autour de la table, on a des gens qu'on n'a pas vus depuis un bon bout de temps. Alice, Chantal, Chandam est avec nous. Bonjour, Alice.
Bonjour, Stéphane.
Paloma Martinez a décidé de venir faire un tour. Bonjour.
Ah, c'est pas parce que je ne veux pas venir que je ne viens pas.
Parce que c'est vrai que faire deux émissions d'affilée, la vôtre est dans 2 heures à peu près?
Non, dans 1 heure.
Dans 1 heure?
Et demie.
Mais ça demande de l'énergie, hein? Ça demande beaucoup d'énergie. Je sais, j'ai fait la semaine dernière une autre émission. Et puis, c'est un cadeau qui m'a coûté. Ça m'a fatigué un peu.
Non, mais on aime ça.
Ouais.
Ça être là, je suis contente d'être là.
Fantastique. Et puis, ma collègue de toutes les guerres et tous les combats, Marie Jobin.
Pensez-vous à l'Alberta lorsque vous disiez ça, parce qu'on a travaillé ensemble en Alberta?
Je pense aux 20 dernières années que nous avons travaillé ensemble, Marie, c'est sûr et certain. Chacun de ces jours est gravé dans ma mémoire pour toujours.
Oh, j'espère que ce sont de bons souvenirs.
Oui. Écoutez, les femmes, voici, je vous propose la vidéo.
Oui, l'homme.
Oui, il n'y a pas de problème.
C'est un clan.
J'assume avec plaisir. Voici, je vous propose la vidéo. 5 images. Comme les internautes, vous n'avez aucune idée du sujet.
Non.
Je vous demande de crier dès que vous pensez que vous êtes sur la piste. Je vous montre ces 5 images. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est la régie. Grâce à la régie, on peut tout faire. Voici. Première image.
Ah, la plage.
C'est beau, hein? Ça fait rêver.
Ah, j'aimerais ça y aller. Oh! Ah!
Brésil?
Peut-être. Ouais.
Colombie?
Ça ressemble. Ça ressemble.
Non,
non, ça c'est une grande
une
ville.
Une mégalopole comme ça ressemble au Brésil pas mal.
Vous pensez, vous?
Ouais. Rio?
Ouais, vous pourriez être sur la bonne piste, je dirais. Ouais, ouais,
Brasilia.
Ouais.
Ah, Brésil.
Déforestation.
La forêt qui brûle. Les feux de forêt.
Voilà.
Oh, la déforestation. Oui.
Les feux de forêt, ouais.
On va essayer de savoir qui dit vrai. Si c'est vrai que quand ça brûle, c'est parce que c'est normal. Ou quand ça brûle, c'est parce que c'est anormal, comme le disait un certain nombre de politiciens.
Mm-hmm.
J'allais dire des nonos, c'est pas ce que je voulais dire. Un certain nombre de politiciens. Difficulté à m'exprimer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ça avec une invitée qui connaît le monde, le débat environnemental et le débat politique sur le terrain au Brésil. Et tout ça vu du Canada, d'accord? Alors c'est toujours ce que j'adore faire avec vous, en amenant le Canada dans ce débat-là, en vous parlant des forêts canadiennes également,
mm-hmm.
de mettre de peser les forêts de l'Amazonie, peser les forêts du Canada, voir ce qui en ressort. Beaucoup de bois, j'en suis sûr. Et beaucoup de feux de forêt. On a ça en commun. Alors, premier tour de la grosse boule. Action!
Oh, action!
Voilà.
Allons.
2 boutons. Petit préambule avant. C'est quand même un petit peu préambule, mais on vous présente la question à l'écran
mm-hmm.
pendant que je trouve mon préambule. Ben, disons que on a perdu beaucoup de forêts, beaucoup d'espaces sauvages depuis un certain nombre d'années. Par exemple, de 1993 à 2009, il y a une enquête qui a été faite en Australie et qui dit que on a perdu l'équivalent d'un grand pays dans le monde durant ces années-là, d'accord?
Oui.
En superficie. Alors, est-ce que c'est la superficie de l'Afrique du Sud qu'on a perdue durant ces années-là? La superficie du Mexique? Paloma, vous êtes d'origine mexicaine.
Tu dois le savoir, hein?
Ça doit être un gros pays, le Mexique.
Absolument.
C'est le même pourcentage de territoire, ou le même territoire que le Québec, donc 2 millions de kilomètres carrés.
C'est grand, ça.
Oui, c'est...
Est-ce que c'est l'Inde qu'on a perdu en forêt sauvage dans le monde, ou est-ce que c'est l'équivalent de la superficie du Québec, donc du Mexique?
Alors, moi, je vais essayer... D'habitude, je réponds toujours à la fin, mais là, je vais essayer peut-être de répondre au début.
Ouais.
Vu qu'il y a le Mexique et le Québec qui sont de la même grandeur,
ah.
il ne pourrait pas être la réponse.
Peut-être que ce n'est pas tout à fait la même chose.
Ben, ouais.
C'est très près.
Alors, je vais me fier à Paloma et je vais dire...
Elle n'a pas encore répondu à la question.
Non, mais je vais me fier à Paloma parce qu'elle disait que le Mexique et le Québec étaient de la même grandeur.
Ouais.
Et je vais aller avec Afrique du Sud.
Afrique du Sud.
Pourquoi pas?
Et puis, du côté...
Moi aussi, j'irai avec l'Afrique du Sud.
Ah, d'accord.
Parce que l'Inde, j'imagine, c'est plus vaste.
Ouais.
Moi, je veux dire...
Mmh.
Le Mexique.
Le Mexique!
Retour à la maison.
Est-ce que tu serais dû en erreur?
Alors, si, par exemple, la bonne réponse, c'était le Québec ou le Mexique, il y en aurait deux personnes qui...
Oui, qui auraient la bonne réponse.
Et qui ne perdraient pas leurs 20 boules dans ce premier jeu de l'émission. Et aujourd'hui, qui a répondu l'Inde?
Personne.
Vous perdez tous vos boules.
C'était l'Inde.
C'était
l'Inde.
C'est quelle superficie, l'Inde?
L'Inde est à côté de la plage.
Vous posez des questions à laquelle j'ai jamais de réponse. Mais c'est 3 287 000 km carrés.
3 millions.
C'est plus que le Mexique et le Québec.
C'est quand même assez grand.
Hein. Voilà. Alors, j'ai répondu à votre question?
Oui.
Hein, je me doutais que vous alliez poser cette question. J'avais fait ma recherche.
Vous me connaissez, hein?
Oui, je vous connais. Alors, on est prêt pour notre entrevue avec notre spécialiste des questions environnementales. Elle est avocate en droits environnementaux. Elle travaille actuellement au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal, donc non loin d'ici, à l'UQAM, comme on l'appelle.
Oui.
Alors, Alexandra Devulski, bonjour.
Bonjour, Stéphane.
Je devrais dire maître, vous êtes avocate, vous êtes diplômée, vous avez le certificat pour pratiquer au Brésil et vous êtes en train d'essayer de parfaire d'obtenir le certificat, comment ils appellent
le
ça
barreau.
Ici? Le barreau, oui.
Le barreau du Québec.
Oui, non, je passe encore le barreau au Québec, seulement au Brésil. Donc, les disciplines que normalement j'enseigne à la UQAM, ce sont des disciplines d'une façon générale, comme la sociologie de droit, la philosophie de droit et surtout une approche interdisciplinaire des droits. Seulement avocate au Brésil en ce moment.
Alors, on a tous entendu depuis une semaine le débat entre le président de la France et le nouveau président brésilien là, qui est au pouvoir depuis le 1er janvier dernier. On dirait qu'ils ne s'entendent pas sur la même version des faits. Aussi, il faut dire qu'il y a des différences de point de vue entre ce que disent les statistiques officielles du gouvernement brésilien et ce que dit le grand leader brésilien. Alors, on ne sait plus à quel... où
non.
se brancher.
Non.
Mais à quel arbre
se brancher.
Voilà. Par où on prend ça aujourd'hui? Par où on essaie de... Vous êtes professeur, donc vous êtes capable de nous amener tranquillement vers la vérité, j'espère. Alors, comment on s'y prend?
On espère tout le temps encore s'y fier à la science, étant donné que c'est le paramètre, j'imagine, en ce moment encore le plus fiable. Mais malheureusement, Bolsonaro, il fait partie d'un certain groupe idéologique politique au Brésil qui s'est... Il se fie beaucoup à un genre d'approche sur les faits, un peu, comment je peux dire, dirigé selon leurs intérêts politiques. Alors, c'est sûr et certain que les organismes étatiques au Brésil sont très fiables en ce moment pour dire qu'on a eu une augmentation significative de feux en Amazonie. C'est un problème historique au Brésil. Ça ne commence pas avec Bolsonaro. Il faut être juste, il faut être fair. Mais qu'est-ce qui arrive en ce moment, c'est que les feux de forêt font partie d'un virage au Brésil à l'extrême droite, mais aussi parce que les propriétaires fonciers au Brésil se sont autorisés. Parce qu'il n'y a pas beaucoup ils savent qu'ils ne sont pas monitorés par les gouvernements, parce que les gouvernements prônent pour un genre de développement qui marchandise la forêt. Et en même temps, Bolsonaro, depuis sa campagne électorale, il disait, c'était une promesse de campagne, quand il disait que les peuples autochtones ne vont plus avoir ni même un centimètre de plus de forêt dans mon gouvernement. Pendant mon gouvernement, une fois qu'il était élu, c'est exactement ça qu'il a fait. Donc, on s'attendait vraiment à un backlash au niveau des droits humains, des droits des peuples autochtones, mais c'est que ça sort complètement du cadre de la normalité. C'est que Bolsonaro, en ce moment, il est vraiment en train d'hypothéquer quelque chose que ça appartient aux Brésiliens, aux peuples autochtones, mais c'est une garantie aussi de survivance de la planète. Alors, je dirais que c'est un président qui se fie beaucoup sur la polémique. Il aime polémiquer les choses. Il aime faire des speeches, des allocutions, des discours extrêmement irresponsables, sans aucun fondement. Quand il dit que c'est les ONG qui ont mis le feu sur l'Amazonie, il n'y a aucun sens dans un genre d'allocution comme ça. Parce que les ONG ont prôné historiquement pour le contraire, c'est la préservation. Et en même temps, il y a une partie des propriétaires fonciers en Amazonie qui ont des grands intérêts pour que les feux soient très répandus parce que c'est la façon la plus cheap de préparer le sol pour les terrains pour le bétail. Donc, historiquement, on sait que c'est les propriétaires fonciers qui mettent les feux dans l'Amazonie. Ce n'est pas quelque chose de très difficile d'identifier. Parfois, c'est difficile d'identifier la personne, la propriété, et ensuite, ça ne vient pas de l'ONG.
Oui. Alexandra, on a plein de questions pour vous. On va commencer par Maryse.
Oui, parce que moi, je pensais en ce moment, on dit beaucoup que la Chine, qui ne peut pas s'approvisionner parce qu'elle est en conflit avec les États-Unis, va chercher du soja et du bœuf du Brésil. Ça met une grosse pression. Et on pense aussi au fait que Dilma Rousseff et Lula da Silva étaient moins enclins peut-être à faire ça avant, parce qu'on dit que là, il y a un pic, c'est plus important cette année, cette déforestation qu'avant.
Oui, il faut, comme Lula, il a assumé la présidence, il y a eu en 2003 un document très important qui s'appelait « Lettre aux Brésiliens ». C'est la première fois que les présidents soient élus et se dirigeaient à la population. Et là, il faisait un compromis avec les capitales financières en train de dire « Écoutez, c'est une personne de l'allégeance de gauche ». Mais je veux assumer les compromis qu'on a avec les grandes multinationales, avec les capitales. On ne va pas faire la révolution ici. Ça, c'est quelque chose qui a été très condamné pour les mouvements sociaux qui s'attendaient à quelque chose de différent, de finalement une transformation plus profonde dans un pays extrêmement inégal, extrêmement raciste et qui méprise encore les peuples autochtones. Mais par contre, c'est même Lula, il a nommé Marina Silva comme la personne à la tête du ministère de l'Environnement. Marina Silva, c'était quelqu'un historiquement lié au groupe des gens qui protégeaient l'Amazonie. Donc, il y avait toujours un clash entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Mais c'était républicain, les combats. C'est très républicain dans le sens où les gens s'entendaient, s'écoutaient. Avec Bolsonaro, c'est tout est changé dans le sens où la FUNAI, les INCRA, qui sont respectivement les institutions étatiques responsables pour régler les problèmes fonciers, les conflits fonciers, et la FUNAI qui fait la protection des réserves indigènes, qui Bolsonaro a mis à la tête de ces organismes, ce ne sont pas des gens avec la compétence technique connaît les terrains. Ce sont des gens liés au groupe de l'agro-business. Donc, le message était clair. Et les mouvements sociaux, ils ont commencé à crier depuis le début. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est vraiment une façon de laisser les pays à la disposition du capital financier. Il faut rappeler que le Canada, il a une liaison importante avec ce qui arrive en Amazonie, spécialement le Québec, qui n'est pas connecté avec l'aide financière qu'on veut envoyer pour combattre le feu. La Caisse de dépôt du Québec, elle investit, elle a acheté par un groupe de fonds financiers des terrains en Amazonie. Donc, ça aide à la pression de la déforestation et ça aide aussi à la pression sur les peuples autochtones qui ce sont les gardiens de la forêt. Alors, oui, on a eu toujours une problématique entre le développement du pays, le développement économique et la préservation. C'est toujours difficile de conjuguer ces deux choses au Brésil. Et même que je trouve qu'il y a des solutions à cet égard, mais c'est difficile au niveau politique de l'establishment. Mais avec Bolsonaro, le message était clair. L'Amazonie, c'est un espace où il manque de développement. Et le développement qu'on veut, c'est le bétail. Et c'est la soja, c'est la soya.
Donc, alors, une question maintenant d'Alice pour vous.
Oui, en fait, je veux savoir, Madame Alexandra Desmunki, on sait que la forêt brûle, c'est un phénomène des fois normal, des fois paranormal. Et puis, il est très, très difficile d'établir les responsabilités. Sur un plan purement juridique, pensez-vous qu'il y a une meilleure façon de trouver une solution à ce problème-là? Sur le plan juridique, comment contraindre différentes parties à observer les règles environnementales sur ce plan?
C'est exactement ça Franchement, que ça m'étonne et ça me bouleverse. On a tous les outils juridiques pour le faire. On a tous les outils technologiques pour le faire. On a des satellites. On a des gens extrêmement capables et compétents au Ubamax, l'institut qui généralement fait ce genre de monitorement de l'espace. Je travaillais au IBAMA quand je faisais mon bac encore au droit et j'ai travaillé aussi avec des producteurs à l'époque à Mato Grosso, qui c'est l'une des provinces au Brésil où les feux atteignent en ce moment un degré d'anormalité, c'est trop haut et il y a de la fumée partout dans les villages. Ce qui arrive en ce moment, c'est un virage politique. C'est que, un, on sait historiquement où sont les points où la forêt brûle, ça fait des décennies. L'État brésilien a choisi de ne pas agir. C'est une décision politique. La déforestation de la forêt amazonienne, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une sécheresse anormale, c'est un projet de développement du pays qui méprise la conservation des forêts et des rivières. C'est une façon de voir comment un pays au sud, un pays latino-américain, doit se développer. Donc, au lieu d'investir dans des énergies renouvelables, au lieu d'investir dans des facultés au Brésil, l'Université de São Paulo a été élue dans un ranking. Moi, je viens de l'Université de São Paulo. J'ai fait mon doctorat là-bas. C'est une université extrêmement importante. L'un était dans un palmarès de l'université, un palmarès européen, comme l'une des plus importantes universités au monde, avec des publications et de la recherche. Et au lieu d'investir dans les chaires de recherche pour trouver des solutions pour développer les pays de nos façons et prendre l'urgence de leur changement climatique, on choisit encore une façon très ancienne de développer un pays, que c'est la vente des commodities, c'est des produits primaires, c'est de la soya, c'est du bois, c'est du bétail. C'est important, c'est une industrie importante, mais ça, ce n'est pas le futur du pays ou du monde. Donc, on a les outils.
Maître
C'est qu'on n'a pas
Dvolski,
la volonté politique de les utiliser.
Paloma brûle de vous poser une question. Ça fait ça, on change de mot.
Non, en fait, je me demandais comment les citoyens peuvent agir, peuvent avoir une incidence sur la solution à ce problème. Parce que souvent, on se pose la question parce qu'on voit les problèmes très grands, puis on ne sait pas quoi faire à notre échelle. Donc, qu'est-ce que vous pensez que les Canadiens et encore les Latino-Américains ou même les gens du monde peuvent faire pour que ça change?
Je pense qu'en tant que Canadien, on doit interpeller le gouvernement canadien à l'égard des investissements que la Caisse de dépôt du Québec fait en Amazonie. En tant que Québécois et Québécoise, j'en doute que ce soit un principe, une valeur de notre société, de brûler les forêts pour faire des profits et avoir de bons retraites. J'en doute quand on a ça comme principe et comme valeur. En même temps, le gouvernement du Canada, il a aussi, il doit trouver une façon de réglementer l'activité de l'industrie minière, qui fait des dégâts important au Brésil et qui investissent aussi dans des régions qui devraient être ciblées pour la conservation et pour la préservation et non pour l'extraction et pour l'extractivisme de façon générale. Alors, en tant que citoyenne et citoyen, je pense qu'il faut se faire entendre. Et pour se faire entendre, il faut sortir de notre cadre individuel et s'impliquer. S'impliquer d'une façon, que ce soit dans la rue, que ce soit par des manifestations, que ce soit en adressant ses élus. Mais il faut faire quelque chose, c'est sûr et certain. Et je ne crois pas dans une solution magique avec un coup de baguette magique. Je crois vraiment dans une panoplie, une diversité d'engagements. Donc, on doit interpeller nos élus, on doit utiliser les outils juridiques. Il y a des juristes en ce moment même au Brésil, et je fais partie, qui sont en train d'étudier une action contre Bolsonaro pour un écocide. C'est un crime contre l'humanité, ce qui est en train de se passer en Amazonie. Ils brûlent notre culture. Mais surtout, en tant que citoyens et citoyennes, il faut comprendre que les peuples autochtones sont effectivement les groupes en ce moment qui font de leurs moyens de vie un outil de préservation de la forêt. Donc, donner du soutien aux autochtones au Brésil, c'est préserver l'Amazonie. Et ces gens-là, ils se font exécuter, ils se font tuer d'une façon systématique au Brésil. Et ils sont des survivants d'un génocide colonial. Et ils sont là encore en train d'essayer de protéger ce qui en reste de la forêt amazonienne. Donc, je dirais qu'en tant que citoyenne et citoyenne, donner du soutien aux peuples autochtones, que ce soit financier, que ce soit par des engagements, que ce soit d'une façon de consommer de la viande ou de consommer de la soya en train de s'inquiéter quelle est la provenance, je pense que ça, c'est déjà un excellent début.
En tout cas, Maître Devulski, vous êtes probablement très loin d'être élu éventuellement parce que vous répondez aux questions. Hein? Quand on vous pose une question, vous y répondez jusqu'au bout. Fantastique. On aimerait ça vous garder avec nous pendant un bon petit bout de temps, mais l'émission, elle court plus rapidement que nous. Alors, merci beaucoup de nous avoir apporté vos réflexions là-dessus aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie de l'excellent travail. Merci.
Bonne journée.
Alors, c'est
Maître Alexandra Devulski, avocate en droit environnementaux. Pour la rejoindre, il faut aller au département des sciences juridiques, Université du Québec à Montréal.
C'est intéressant ce que Maître disait parce que Paloma et moi, on est assises une à côté de l'autre. On avait la même discussion. On mange quoi? Le soja est problématique au Brésil. Le bœuf, on veut en manger moins. Donc là, on se retrouve un peu dans un coin.
Je crois qu'une des choses qu'on peut faire, et j'ai discuté de ça avec ma fille ce matin, c'est drôle qu'on en parle, parce que je lui expliquais un peu l'incidence qu'ils peuvent avoir les cultures de soja, de soya, dans l'Amazonie, justement, de ce qui se passe en Amazonie. Puis il m'expliquait, mais nous, on pensait, parce qu'elle elle fait partie du comité environnemental de son école, blablabla, elle mange de moins en moins de viande et tout ça. Je dis, je pense qu'il faut équilibrer. Exactement. Parce qu'on ne peut pas manger trop de soya, trop de viande non plus. Donc, il faut faire des petits pas par-ci,
dans
par-là.
Cas, on va
et
suivre le guide alimentaire du Canada.
En tout cas, je ne dirais pas que c'est ça parce que j'ai entendu des gens à CBC s'exprimer à ce niveau-là. Mm-hmm. Ce n'est pas nécessairement en suivant au pied de la lettre le guide qu'on va réussir à être environnementalement responsable.
Oui.
Donc, il faut se poser des questions, mais équilibrer notre alimentation au moins.
Ouais. Écoutez, on est prêt pour le deuxième tour de la grosse boule. 30 boules à perdre. Et vous avez déjà tous perdu vos 20 premières boules. Il y a 100 boules à perdre par émission.
J'aime ça comment vous nous le rappelez.
On en perd à tout bout de champ.
Oui, ouais, mais j'ai des petits plaisirs de rien du tout. Le vendredi, c'est un de ceux-là. Écoutez, alors on présente la question à l'écran, oui. D'accord? Et on a parlé beaucoup des forêts des autres, de l'Amazonie, etc. Je vais vous demander... Quel pourcentage du territoire au Canada est officiellement protégé contre le développement humain? Ça ne se passerait pas comme ça au Canada, par exemple, ce qui se passe en...
Mais là, est-ce qu'on fait des projections ou protéger en ce moment?
En ce moment même. Okay. Okay. Alors, est-ce que c'est A, on protège en ce moment de tout développement humain? C'est 10 %. Est-ce que c'est B, 20 %? Est-ce que c'est 30 % du territoire canadien qui est protégé? Ou D, aucune de ces réponses? Quel pourcentage du territoire au Canada est officiellement
J'ai
protégé?
J'ai déjà lu ça quelque part.
D, aucune.
C'est ça le pire.
Ah oui?
J'irai avec la réponse D. Aucune de ces réponses.
Qu'est-ce que vous diriez à la place?
Au pif. Je dirais entre 15 %
15 % vous trancheriez entre A et B, vous feriez un abyss.
Ouais, je me placerais au milieu.
D'accord, très bien. Alors, D pour Alice. Maryse.
Mais moi, j'irais avec 20
%. 20 %.
Parce que je me dis que peut-être on projette que d'ici quelques années, aller vers le 30, mais qu'on a dépassé la barre du 10.
D'accord. 30 % du territoire canadien, ce serait au-delà de 3 millions de kilomètres carrés. C'est l'équivalent, finalement,
oui,
de l'Inde.
Mais il y a une grande partie du territoire canadien qui n'est pas habité.
C'est vrai. Donc, on peut protéger, ça coûte rien, c'est ça?
Qui n'est pas habité, mais qui est peut-être exploité.
Ouais. Ah, ça, c'est une autre affaire.
Donc, moi, je dirais 10 %.
10 %.
Je ne suis pas optimiste.
Vous n'êtes pas optimiste?
Excusez-moi.
Mais 10 %, ça serait déjà au-delà d'un million de kilomètres carrés.
Oui.
C'est un bon départ.
C'est un bon départ.
On regarde quelle est la bonne réponse ensemble. Les astérix vont apparaître sous la lettre 38. Mais... Non.
Pierre, on a besoin de la réponse.
Non, croise les doigts.
Est-ce que ça, oui, ça.
On n'a pas de tambour, on pourrait faire un roulement de tambour.
C'est le système qui est lancé par l'être humain. Voilà.
C'est 30 % quand même.
Alors,
c'est Maryse.
C'est ça. Non. Ben, moi, j'ai dit 20 et j'étais comme.
Ouais. Ben, il y a une petite erreur là-dedans. Il y, Amsterdam, c'est pas 30 %. C'est... Attendez voir. C'est 10 %!
J'ai gagné?
Oui, vous avez gagné.
Ah, mais c'est bien!
Oh. L'ordinateur a mis les astérix.
C'est pour surprise, moi, il, surprise.
Il non, travaille parce que la régie est très positive. On parle de protection à long
bon,
terme.
Mais... Ouais. C'est bien.
Donc, voilà. J'ai pas perdu mes boules.
Vous avez pas perdu, c'est vrai. Vous en restez, vous avez au moins un minimum de
temps. Paloma sont plutôt surprise d'avoir gagné. J'ai gagné!
Mais j'ai gagné. Je suis surprise et un peu triste en même temps. Ouais. Parce que je pensais ne pas être assez optimiste. Optimiste. Et okay. Finalement, j'avais raison de ne pas être optimiste.
Mais, ce que je trouve intéressant, c'est ce qui se passe là-bas, c'est qu'on dit que les compagnies... Elle a parlé des compagnies minières canadiennes sol brésilien. Oui, oui. Mais il y a aussi un problème au Canada par rapport au travail des compagnies minières canadiennes en sol canadien, dans la mesure où, par exemple, si on découvrait, je ne sais pas, vous avez une ferme, vous avez une ferme, d'accord?
Non.
Vous avez besoin d'un scénario?
On le suppose.
Sur son balcon.
On le suppose.
Une énorme ferme devant vous, des hectares. Et quelqu'un découvre qu'il y a de l'or en dessous, il y a du pétrole. Ben, vous n'avez pas le choix. Il va falloir laisser rentrer la compagnie qui pourra exploiter le sous-sol. Vous n'avez pas le droit vraiment à ce qu'il y a en dessous. Il faudra négocier, mais c'est la compagnie qui a le gros bout du bâton. Okay. Et en fait, les lois protègent normalement les propriétaires. Mm-hmm. Dans le cadre d'un désir d'une compagnie minière de venir faire des affaires, vous êtes moins protégé que dans le cas, par exemple, de Walmart qui dirait « Je m'en vais chez vous, là, ouvrir mon nouveau magasin. Okay. » C'est différent au Canada.
Ce qui amène à l'occasion de l'expropriation.
Et voilà, c'est le grand mot.
Malartic. Je passe souvent par Malartic en Abitibi, puis je le vois comment ça a été exproprié. Les gens ont été expropriés, puis ont été déplacés pour faire un grand trou pour aller chercher de l'or.
Donc l'histoire, il y a beaucoup de ça au Canada. Alors, c'est à voir. Ceux qui habitent en ville, il n'y a pas de danger qu'une grosse compagnie vienne creuser dans votre sous-sol, mais à la campagne.
C'est encore drôle.
C'est encore drôle, hein? Tout est possible. Seulement 10 % du territoire est protégé.
C'est voilà.
C'est la leçon du cours aujourd'hui. J'ai quelque chose à vous proposer. J'ai appelé ça, moi, en langage journalistique, vous savez, je complique les choses. J'ai appelé ça 4 postes, comme un journal, le poste. Non, oui. 4 postes entrevue, Skype.
Non.
Plein son. Ça n'a rien à voir avec Skype. Mais c'est après l'entrevue Skype, c'est ce que j'essayais de dire à mon moment. Voilà. Je vous présente ceci. Ce sont les reportages que vous faites regarder sur la page d'accueil de Tam Tam Canada cette semaine pour approfondir cette question. On parle bien sûr de ce qui a été discuté par les grands leaders pour protéger l'Amazonie cette fin de semaine, les leaders du G7. On parle évidemment du grand Bolsonaro et on essaie de voir qui il est et qu'est-ce qui le fait avancer, qu'est-ce qui l'intéresse. Tout en haut, je reviens, voilà. On va écouter. C'est quelque chose produit par Maryse Jobin cette semaine. Belle image, Maryse. Un cheval tout seul sur un fond.
C'est une île déserte.
Ouais. Alors, c'est vous qui avez fait ça cette semaine.
Oui, bien, ce qui est intéressant, c'est que vous savez que il y a un spécialiste ici. Je pense que peut-être que madame connaît, qu'on a interviewé.
C'est
Marc-Michel Lucotte.
Il faut savoir que les feux en Amazonie, c'est tous les ans. Il y a des années qui sont pires.
Il faut savoir que les feux en Amazonie, c'est tous les ans. Il y a des années qui sont pires que d'autres, évidemment. Pendant quelques années, entre les années 2000 et 2010, il y a vraiment eu un pic des feux en Amazonie qui avait décru depuis avec les gouvernements Lula et les gouvernements Dilma. Évidemment, avec l'arrivée de M. Bolsonaro au pouvoir, eh bien, il y a une recrudescence de ces activités-là, tout simplement parce qu'on laisse un petit peu libre cours aux producteurs d'étendre leurs surfaces sur lesquelles ils vont planter du soja ou bien faire paître leur bœuf. Ce n'est que le début, d'ailleurs. Nous ne sommes pas dans le pic de la saison des feux.
En ce moment, il y a véritablement une panique par rapport.
On disait que le Brésil, c'est le poumon de la Terre. Mais en fait, un poumon, ça rejette du CO2. Donc, il ne faudrait pas qu'on utilise le mot poumon. Il était en entrevue avec Anne-Marie Dussault à RDI et il a tout bien expliqué ça. Et ce qu'il expliquait aussi, c'est que les arbres, on les abat, on les laisse sécher et là, après, on y met le feu. Et pour beaucoup de gens là-bas qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est une façon de s'approprier une terre. Donc, j'imagine que Bolsonaro, d'une certaine façon, veut permettre à des gens. Parce que pas seulement des grandes entreprises qui font ce métier-là, mais aussi des petits producteurs. Donc, il y a un côté un peu politique populiste, là, d'aller vers le peuple, de permettre à ce que des gens puissent accéder
à
ça.
La terre, oui.
Exactement.
C'est comme une baisse d'impôts aux États-Unis pour les pauvres. Ce serait l'équivalent, disons.
Sauf qu'il faut faire un peu d'argent pour pouvoir, en tout cas.
Bon. D'accord.
Écoutez, donc, il y a du social qui se cache là derrière quelque part.
Oui, tout à fait.
Je voudrais vous présenter une image ou une série d'images, d'accord? Vous avez besoin de ça pour le prochain test de la grosse boule. Alors, il faut bien regarder.
Il faut regarder d'accord? Premier,
oui. Alors, je vous présente ces images en vous disant que il y a présentement... On va parler de la forêt boréale, d'accord?
Oui.
Je vais vous demander si vous reconnaissez cette forêt. Si vous pouvez me décrire ça, à quoi ça ressemble, une forêt boréale au Canada. Où est-ce que c'est, par exemple? Qui se sent d'attaque?
Beaucoup de conifères, moins de feuillus.
Voilà.
Oui.
Très bonne définition. Ensuite?
Des vastes espaces de forêt.
Oui, il y en a beaucoup. Et? Oui.
Dans les prairies.
Plus au nord.
Oui, mais plus au nord, parce que les prairies, ça fait appel à la notion de
champs.
Oui.
De champs, oui, tout à fait.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des prairies à l'intérieur des forêts boréales.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est sûr. Donc, je ne sais pas pourquoi je pars à rire. Et puis, alors, ça couvre beaucoup de territoires canadiens, d'accord? Okay, je peux peut-être vous donner un petit indice, parce que je vais essayer de vous aider. Il y en a qu'un certain nombre d'entre eux qui ont perdu des boules aujourd'hui, n'est-ce pas,
Paloma? Non, alors, moi, je n'ai gagné.
Non, lui,
je n'en ai pas perdu.
Vous avez... Non, mais je dis eux, là.
Oh, oui. D'accord.
Elle, vous vouliez dire.
Le bout de...
Elle.
Le bout de la table. Voilà. Okay. Moi, j'étais toujours assis à l'arrière en classe. J'étais le canque. Non, c'est pas vrai. J'ai toujours assis à l'avant, mais je peux pas le dire parce que sinon les gens seraient jaloux encore aujourd'hui. Alors, voici. Troisième tour de la grosse boule. 50 boules à perdre. Voici la question. Laquelle de ces forêts est la plus vaste? En vérité, laquelle de ces forêts est la plus vaste? Est-ce que c'est A, l'Amazonie? Est-ce que c'est B, la forêt boréale canadienne?
Ah.
Ou est-ce que c'est C, A, attendez là. Est-ce que c'est C, la forêt boréale russe, qu'on appelle aussi la taïga?
Mais là, quand
moi,
on parle russe...
l'Amazonie.
Elle n'a pas hésité, à l'Amazonie.
Mais là,
l'Amazonie.
Russe, est-ce qu'on parle du RSS, des anciennes terres ou de la Nouvelle-Russie?
On parle de la Russie actuelle.
Moi, c'est l'Amazonie.
L'Amazonie pour Alice.
Ah, moi, je vais peut-être me tromper, mais je vais aller avec la forêt boréale russe. C'est ça.
La taïga.
La taïga.
La taïga.
Ouais.
Très bien.
Mais là, je vais faire différent.
Ouais.
Je vais prendre la forêt boréale canadienne.
50 boules à perdre. Qui va perdre?
Je sais pas si je vais le perdre. Je pars.
Moi, j'en ai pas, alors j'ai rien à perdre. Il m'en reste plus.
J'annonce pas le nom de la gagnante ou des gagnants, je sais pas. On va regarder la réponse maintenant avec l'ordinateur de bord. Qu'est-ce que ça dit?
Ah, Maryse a gagné!
Non, c'est... Oh oui, la forêt boréale russe, tout à fait. Alors, je reprends 50. Que... Et elle en a perdu 50.
Ah, la taïga!
Donc, on est égal?
Non, je pense
la bonne
que
réponse,
j'en ai
c'était C.
Pas.
Qui a répondu C?
C'est Maryse.
Parfait. Maryse gagne.
Maryse gagne, puis elle... Garde ses 50 boules, tandis que nous, on a perdu 70. Non,
la couronne.
50 boules.
La couronne pour Maryse.
Voilà. Donc, elle a,
la super
elle a conservé 50 boules, Maryse. Alice a tout perdu.
Oui. Tout perdu. Moi, j'ai perdu 50. Non, qu'est-ce que j'ai perdu?
Très peu.
J'ai perdu beaucoup, 70.
D'accord.
Dans tous les cas, il y a deux gagnantes.
Ouais.
Non.
Mais il y a quelqu'un à Edmonton qui a gagné plus d'argent que moi. Alors, un monsieur qui a gagné 60 millions de dollars et il a joué l'extra avec 2 dollars de plus. Il a attendu 10 mois avant d'aller chercher son argent.
Pour réfléchir.
Exactement.
Qu'est-ce que
et le reste de la famille
n'était
même pas au courant. Alors, imaginez.
Ben,
gardez le secret.
Ça aurait fait une belle image la semaine, ça.
Oui.
Tout à fait.
Mais non, c'est pas celle-là qu'on a sélectionnée pour aujourd'hui. Alors, on a Maestro qui nous fait entendre le thème. Voilà, c'est que c'est beau. Hein. C'est donc le thème de notre image de la semaine. Je réponds par oui ou par non. Il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à gagner, sinon l'honneur d'avoir répondu correctement.
La semaine.
Alors, quelle est l'image de la semaine, cette semaine? Ou le mois dernier, si vous voulez.
Le mois dernier.
Tout le mois d'août?
Mais non, on parle de la semaine.
De la semaine, c'est ça.
Je ne sais pas, moi.
Mais la forêt qui brûle.
La forêt qui brûle. Elle
mais ça a commencé la semaine dernière.
Ouais.
La forêt qui brûle a commencé la semaine dernière.
La semaine dernière. Et se poursuit cette semaine.
Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Oh! Il y a eu une annonce concernant l'hiver 2019-2020 que ça va être plein de neige et froid.
Eh ben, non,
non
c'est
pas
ça. On continue.
Je sais pas moi, les tergiversations d'Andrew Scheer.
Chef du Parti conservateur.
Oui, autour de la question de l'avortement.
Non, c'est trop sérieux.
Bon,
c'est
on continue. Sérieux.
Moi, c'était essentiellement la forêt. Hein, la forêt qui brûle et qui n'arrête pas de brûler.
On a dit non.
On a dit non.
Oh là là.
Mais ça se passe dans la forêt, c'est sûr.
C'est vrai?
Ouais, ça se passe dans la forêt. Je vous aide un peu. Ça se passe dans la forêt ou à la frontière de l'Alaska et de la Colombie-Britannique.
Des saumons.
Ça pourrait être l'histoire des saumons qui...
Qui sont coincés.
Mais ça, c'est une histoire qui a commencé il y a quelques, avant la
quelques
semaine.
Mois, ouais.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Donc,
donnez-nous un peu plus d'indices. Là. Je trouve que vous êtes un peu chiche.
Il y a un animal là-dedans. Y a
un ours, oui! L'ours qui s'est fait donner des Timbits.
Oui, exactement.
Et je l'ai même ici.
On montre l'image de la semaine. Puis vous nous racontez l'histoire.
Mais pas tant que ça.
Il n'y a pas grand-chose à dire.
C'est un monsieur qui a donné à manger des Timbits. Est-ce qu'on sait tous c'est quoi des Timbits?
Ben, c'est très canadien.
C'est très canadien, mais c'est... Expliquez-le.
C'est des trous de beigne. C'est des trous de beigne. Ben oui, mais parce que quand on fait les beignes...
Il y a toujours un trou.
Il y a toujours un trou. Alors la pâte qui est dans le milieu, bon, on la récupère, on la fait cuire et ça fait les Timbits.
Et c'est fait par Tim Hortons. C'est une chaîne, c'est l'équivalent du Starbucks dans d'autres pays.
Mais
c'est
ici,
notre
c'est
chaîne
notre...
nationale. Oui. Mais... Des policiers.
Mais en fait, ça a été racheté par des intérêts brésiliens.
Merci pour la publicité gratuite. Hein.
Ouais.
La publicité gratuite pour Tim
Hortons. Oui, mais le
monsieur,
c'est ça qu'il a fait. Mais il a reçu une contravention pour avoir fait ça parce qu'on n'a pas le droit de donner à manger aux animaux sauvages et surtout pas du sucre.
Ben oui.
Comme ça.
Oh, combien la contravention? Combien ça lui a coûté?
Je ne me souviens plus, mais
c'est
l'ai
ça,
ici.
C'est pas sucré.
C'est pas sucré, hein? Je l'ai quelque part.
2 000 $.
Ah, vous sérieux?
Ben,
j'ai lancé un chiffre comme ça.
Ah, non,
ouais, 2 000, je le vois ici.
On dirait que vous êtes la juge dans le cas. Vous avez décidé 2 000 $, c'est 2 000 $.
Mais il croyait que c'était plutôt sympathique de donner à manger à un animal.
C'est sympathique, le monsieur, mais c'est pas sympathique.
Donc, il s'est ramassé avec une sacrée amende.
Ouais, mais ça, c'est un problème, hein, de nourrir la faune avec des trucs comme ça, ce qui fait qu'ils deviennent dépendants et ils perdent leur instinct.
C'est comme les pigeons. Il ne faut pas les nourrir, les pigeons. Les écureuils.
Non,
et comment
retourner ça, il faut le savoir. Hein?
Puis quand j'étais guide...
Il faut le savoir.
Quand j'étais guide au Mont-Royal ici, j'étais éducatrice, guide.
Oui,
et puis on nous disait que c'est même dangereux de faire ça. Il ne faut vraiment pas donner à manger aux animaux sauvages du tout. C'est dangereux, puis ce n'est pas bon pour leur santé, pour nous non plus. On fait ça.
Alors là, j'ai besoin de 2 volontaires. Est-ce que j'ai... Il faut d'abord savoir pour quelle raison vous vous porteriez volontaire, mais j'appelle ça, c'est nouveau cette semaine. Je n'ai pas de thème musical, mais mon imagination continue de courir, vous savez. Alors j'ai appelé ça le jeu de la meilleure présentation. Alors...
La meilleure présentation de quoi?
Est-ce que vous jouez?
Non, moi je veux... Ce sont vos internautes qui vont juger.
Le jeu de la meilleure présentation de
vous
quoi?
Vous faites une présentation.
On présente quoi?
Vous présentez une vidéo que je vais vous donner. Je vais vous donner le titre de la vidéo. Vous allez voir les images apparaître et vous faites la présentation.
Je me sens comme dans mon cours d'art dramatique.
C'est de l'improvisation. C'est bon, c'est très bon pour l'âme, vous allez voir. Et c'est celui ou celle, dans votre cas, c'est celle qui fera la meilleure présentation. On va le savoir.
Non,
parce
que
nos internautes vont voter.
Que vous
dire,
ne participez pas, alors.
Hein?
C'est pas celui.
J'ai besoin de 2 volontaires. Levez la main, tous ensemble.
Bon, ben, je me jette à l'eau. C'est quoi comme présentation?
Allez, si vous y allez, je vais y aller.
Très bien. Est-ce
je me jette à l'eau. Hein?
C'est excellent. Alors, nos 2 perdantes de cette
semaine. On va être solidaires, hein?
Mais oui!
Sauf solidarité.
Ben oui, on s'entraide.
Bon, je vois qu'il manque quelques minutes à notre émission, c'est-à-dire que le bon Dieu est passé, il nous en a enlevé. J'espère qu'on va poursuivre ça jusqu'au bout. Ça ne dure pas longtemps. Notre première vidéo, alors c'est Alice qui va nous présenter la vidéo.
Okay.
On appelle ça nos balados. Comment écouter nos balados sur RCI?
Monsieur.
C'est tout nouveau comme service, ça fait quelques mois ou quelques semaines. Et la vidéo apparaît à l'instant.
Bon, ben voilà, pour écouter nos balados, il faut aller sur notre application.
Ouais.
Et puis, il faut cliquer sur une vidéo de notre choix.
Okay.
Par exemple, on a cette histoire concernant les élections générales au Canada. On clique dessus, on l'écoute en quelques minutes, en quelques secondes. Et puis, on peut donner des commentaires. On peut émettre des idées pour nous permettre d'améliorer l'écoute et la présentation des informations sur notre site.
Wow.
Radio-Canada International, en ce moment, est en quête de nouveautés parce qu'il est question d'attirer plus de lecteurs et plus d'auditeurs. Et donc, vos impressions, votre avis comptent. Et donc, voilà, le public est appelé à interagir avec nous pour nous aiguiller sur la meilleure façon d'améliorer notre site et notre présentation.
N'en rajoutez plus!
Non, mais une présentation comme ça, moi, je ne fais pas compétition à madame.
Ouais. Ah bon?
Pas de concours. Ah non, mais c'était
parfait.
Fallait
que ça dure tout ce temps?
Ben, ça a la durée qu'elle veut. Tant que les images roulent, elle pouvait
couper.
Ah, ben oui.
Mais
vous m'avez interrompu.
Je vous ai interrompu. parce que vous êtes devenue imbattable. Alors, je me suis dit, pauvre Maryse. Écoutez,
non, mais moi, je ne participe pas. Là. C'est imbattable ce que Alice vient de faire.
Imbattable.
Non, du tout. Alice, vous êtes la grande gagnante.
Bravo, deuxième vidéo.
Oh, deuxième vidéo, vous nous expliquez. Ça s'appelle Radio-Canada International. Notre nouvelle application. On roule. Et c'est notre dernière vidéo de la journée. Comment, c'est quoi exactement cette application?
Encore là.
Ouais, on vous écoute.
Bon, ben, notre nouvelle application, comme vous pouvez le voir, c'est une nouveauté dans 5 langues différentes. Donc là-dedans, vous avez des émissions en français, en anglais, en espagnol, en arabe. Et c'est de l'actualité quotidienne que vous pouvez suivre sur votre téléphone en balado-diffusion. Et donc, franchement, c'est des informations actuelles qui sont vraiment mises à jour sur une base quotidienne. Et donc, vous avez des informations qui couvrent l'ensemble du Canada, parce que le but pour nous, c'est de faire connaître le Canada à l'international sur le plan politique, économique et sociale, c'est de faire découvrir le Canada dans toute son entièreté avec des informations concernant différents
sujets. C'est fini,
sujets. Là. Voilà.
C'est fini. Ben, ça y est, vous allez me remplacer la semaine prochaine.
Oh non.
Il n'y a pas de problème. Je chercherai un remplaçant.
Non, non, du tout.
Ben, vous avez du métier, il faut dire qu'elle a fait de la télévision.
Elle a fait de la télévision au Cameroun.
C'est ça. C'est ça? Wow.
Merci au Cameroun.
Ouais. Ben, voilà.
T'es habitué à remplir quand la technique...
À Yaoundé.
À Yaoundé, oui, la capitale, oui.
Alors voilà, c'est tout pour cette semaine.
C'est tout, hein, oui.
Je retiens cette idée du jeu de la fin de l'émission. Ben, on choisira un thème différent la prochaine fois.
Oh my God.
Et on n'invitera pas Alice. Parce que...
Elle gagnera de toute manière.
C'est ça.
Oh, mais...
voilà. Ben, merci pour cette semaine.
Merci à vous.
C'est un grand plaisir de vous avoir reçu ici dans mon studio.
Mon petit salon studio.
Voilà, c'est ça. À la semaine prochaine, tout le monde.
Bye bye.
Très bien.
Stéphane.